Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Les Tontons Farmers. Une émission qui...
Les Tontons Farmers. L'émission qui dézingue les idées reçues sur l'agriculture.
Et une émission pour vous, les agriculteurs qui nous écoutez.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Une émission de TV Agri en partenariat avec l'association CoFarming et nos partenaires, la Banque Populaire et le groupe Agrica, sans qui rien ne serait possible, et on les applaudit bien fort. Alors, qui sont nos tontons farmers de la semaine? Tout d'abord, Mickaël Jacquemin, qui revient en seconde semaine, non pas parce qu'il est exceptionnel, mais simplement parce qu'il connaît bien le sujet. Mickaël, déjà en vacances ou en train de réviser la moissonneuse-batteuse?
Bonjour Jean-Paul, pour tout dire, je suis parti en vacances juste avant les récoltes qui va démarrer la semaine prochaine.
Non mais j'y crois pas, un agriculteur qui part en vacances juste avant la moisson?
Eh ben oui, c'est le meilleur moment.
Je rappelle que vous êtes vice-président de l'association CoFarming. Et puis on va apporter du sang neuf dans cette équipe de tontons farmeurs. Un redoutable cost-killer, on le surnomme le bourreau des comptables ou le magicien des chiffres, j'ai nommé Anaël Bibard, qui a cofondé FarmLip, une plateforme qui doit théoriquement vous faire gagner du pognon. C'est bien ça, Anaël?
Exactement, c'est notre mission.
Bon, on verra tout à l'heure. Anaël, vous êtes aussi trésorier de l'association CoFarming. Alors, vous avez remarqué que la semaine passée, nous étions un peu entre céréaliers de la Marne. Cette semaine, c'est terminé. On accueille un vrai éleveur du Charolais. J'accueille Vincent Jourdier. Vincent?
Bonjour Jean-Paul.
Vincent, vous êtes oui. Où?
Alors, je suis dans le Charolais, dans le bassin de la Race.
Et le troupeau, votre troupeau, il se porte bien?
Eh bien, écoutez, oui, il se porte bien. On a eu un printemps pour un lâcher idéal. Et maintenant, on est dans les travaux de fenaison pour pouvoir les nourrir cet hiver. Voilà.
D'accord. Mais Vincent, si vous êtes là, c'est pas uniquement parce que vous aimez vos vaches, c'est surtout parce que vous êtes un expert foncier. Autant dire que vous savez tout ou presque de la face cachée du sujet dont on va parler cette semaine, le foncier. Et c'est vrai qu'en agriculture, le foncier, c'est un vrai dossier et il y a de quoi dire. Bon, est-ce que les tontons farmeurs, vous êtes chauds?
Oui, on est chaud, on est prêt à parler du foncier.
Alors ça tombe bien, il va falloir dézinguer pas mal d'idées reçues sur le sujet. Mais juste avant quand même, on va voir les actus de la semaine et on va essayer de voir quelle est l'actu de la semaine qui vous a le plus énervé. Anaël, quelle est l'actu qui t'a le plus énervé cette semaine?
Ah ben moi, c'est la Convention citoyenne sur le climat. On a une liste de propositions qui arrive où on voit interdire les OGM. J'avais l'impression que, en tout cas, c'est d'après ce qui est publié aujourd'hui à date, on voit ces éléments-là. Et c'est assez inquiétant de voir que la plupart des propositions qui sont faites sur l'agriculture, finalement, sont contradictoires avec les préconisations du GIEC. Alors, on se demande où ça va aller. Si on va dans cette direction-là, à mon avis, on va faire l'inverse de ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire réduire de 40% les émissions de CO2, alors que l'agriculture, c'est une solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, voire pour piéger du carbone dans les sols. Mais là, finalement, quand on regarde ça, on a l'impression qu'on va prendre la direction opposée.
Et Mickaël, qu'est-ce qui l'énerve?
Ah, moi, ce qui m'énerve, c'est assez local dans mon département. On a une administration qui n'a toujours pas donné la dérogation pour récolter les jachères pour les éleveurs qu'on aura certainement besoin cet hiver. Alors, la dérogation, elle doit tomber aujourd'hui pour les fenaisons. Ça a été dit tout à l'heure, on est en plein dedans. Si ça tombe au mois de septembre, monsieur le préfet, ça sera trop tard. Donc, on compte sur vous.
Voilà. À bon entendeur, salut.
Si toi aussi, tu t'énerves au volant de ton tracteur, appelle-nous au 07 51 53 17 27.
Et oui, n'oubliez pas que c'est une émission interactive, on a besoin de vous. Alors si vous êtes agriculteur ou pas d'ailleurs, si vous aimez l'agriculture ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à nous appeler 07 51 53 17 27 ou nous contacter via Twitter en mentionnant le hashtag TTF, et on prendra bien sûr toutes vos questions. Alors, le dossier de la semaine, le foncier m'a tué. Anaël, j'espère que tu as bien bossé ce week-end. Quelques chiffres clés du foncier en France?
Le foncier, aujourd'hui, on reste sur des prix qui augmente régulièrement, même s'il y a des petites années de pause au cours des 10 dernières années. On a une progression de 4,5% de croissance annuelle sur 10 ans. On est à un peu plus de 6 000 euros l'hectare. Après, si on regarde ce prix du foncier, il peut paraître élevé ou une valeur refuge fiable. Mais quand on regarde à l'international, finalement, on est beaucoup plus bas que les autres pays qu'on a autour de nous. 25 000 euros en Angleterre, on peut aller monter jusqu'à 100 000 euros en Hollande. 40 000 dollars l'hectare quand on regarde même certaines régions du Québec, pourtant moins productives en termes de terres. Donc on voit qu'on a un foncier qui finalement ne reste pas cher et on comprend pourquoi c'est une valeur refuge.
Et les tontons, est-ce que vous avez entendu parler de cette rumeur vraie ou fausse qui laisse penser que ce n'est plus les Chinois qui investissent actuellement dans le foncier en France, mais la grande distribution? Au lendemain du Covid, mais même avant, effectivement, la grande distribution a souhaité pouvoir investir, et c'est possible, car quasiment un hectare sur deux échappe à la SAFER grâce à un mécanisme de vente de parts de société. La SAFER peut intervenir sur une vente qui est bien claire, qui est bien structurée à un instant T. En revanche, si on vend petit à petit des parts de société, on peut perdre un peu la main. Et c'est justement ce que nous explique Emmanuel Hiest. Il s'agit du président de la FNSAFER.
Dans les hectares sur lesquels la SAFER pourrait intervenir, effectivement, un hectare sur deux nous échappe. Et quand on dit qu'elle échappe aux SAFER, c'est pas l'intérêt pour la SAFER, il n'existe pas finalement. C'est l'orientation vers l'installation des jeunes agriculteurs, vers le confortement d'exploitation moyenne qui aurait besoin, elle aussi, d'être un peu plus compétitive. Et aujourd'hui, dans les parts de société qui sont transmises, puisque 60% du marché aujourd'hui, c'est les parts de société, il y a 80% sur lesquelles il n'y a strictement rien à dire. Ce sont des transmissions ou familiales ou d'un agriculteur qui cède à un jeune. Et dans les 20% qui restent, eh bien, ça représente plus que l'équivalent de la totalité des surfaces que la SAFER maîtrise par an et vers lesquelles, aujourd'hui, on n'a pas cette capacité d'orienter vers l'installation des jeunes, qui reste la politique publique préconisée depuis 30 ans et qui continue à l'être.
Alors, Michael, vous êtes en société, vous ?
Oui.
Bon, qu'est-ce que vous pensez alors de cela ?
Bah, aujourd'hui, la SAFER, elle joue son rôle de contrôle et pour dans un objectif. Mais bon, je suis pas là pour défendre la SAFER, au contraire, mais juste dire, elle contrôle et elle donne une orientation politique de l'agriculture de demain. Que les sociétés hors production agricole soient contrôlées, maîtrisées, tant mieux. Mais par contre, bon, bah, nous, agriculteurs, de père en fils, alors certes en société, mais une société, c'est pas un gros mot. Là, pour le coup, c'est pas un sujet. Faut laisser faire. C'est normal. C'est la transmission.
Ouais, le seul problème, c'est qu'à la conférence de presse de la FNSAFER, il a été dit qu'aujourd'hui, les grandes cultures, quelque part, grignotaient un petit peu l'élevage au fur et à mesure. Parce que quand il y a des transmissions de parts, souvent, on arrête l'élevage et on fait de la grande culture. Emmanuel Hiest a même dit « l'élevage est en danger », c'est l'édito de cette semaine. Vincent, vous partagez ?
Alors, oui, effectivement, on observe dans nos régions d'élevage de plus en plus de retournement des pâtures pour faire des terres labourables. Effectivement, c'est une observation depuis quelques années qu'on voit sur le terrain. Voilà.
Et même au cœur du Charolais, c'est pour dire. Alors heureusement, Michael, que vous n'avez pas descendu la SAFER, parce qu'il y a Thierry Bussy qui nous écoute, qui est vice-président délégué de la SAFER Grand Est. Thierry, vous nous entendez ?
Très bien.
Bon, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ?
Bah, je vais rejoindre effectivement ce qu'a dit mon président Emmanuel Hiest. Voilà, aujourd'hui, il y a 20% des transferts de parts de société. Alors, comme l'a dit Michael, avoir une exploitation agricole en société, effectivement, c'est pas un gros mot. Hein. C'est quelque chose qui est préconisé aujourd'hui pour différentes raisons. Par contre, le transfert de parts de société, aujourd'hui, il est fait en partie. Effectivement, la SAFER n'a pas le droit d'intervention, hein, puisqu'on a le droit d'intervention à partir du moment sur les sociétés, à partir du moment où 100% des parts sont transférées. Donc, ce qui fait qu'on voit apparaître effectivement un certain nombre de montages aussi aberrants, ou voire plus aberrants les uns que les autres, jusqu'à 99,9% du transfert des parts de société porteur à la fois du capital d'exploitation et à la fois du foncier.
Est-ce que vous avez entendu parler ? Allez-y.
Ce qu'il faut avoir à l'esprit, juste pour finir, c'est qu'à chaque fois qu'on transfère une exploitation avec du foncier en part de société, le foncier est entre 20 et 40% supérieur aux références hautes que nous, on peut avoir.
Bon. Est-ce que vous savez, Thierry Bussy, que la grande distribution achète aujourd'hui quelque part, un droit à produire.
Oui, bah, je le sais. Pour l'instant, nous, on n'a pas de cas, effectivement, sur la région Grand Est de volonté d'acheter. On n'a pas été notifié. On n'a pas de, effectivement, de référence par rapport à cela. Moi, simplement, effectivement, aujourd'hui, le foncier est très courtisé. Donc, il y a beaucoup de demandes par rapport au foncier, hein, diverses et variées. Aujourd'hui, simplement, ce qui nous manque aujourd'hui, que ce soit au niveau de la SAFER ou que ce soit au niveau de la politique agricole, c'est une vision politique. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus cette vision du modèle. Clairement, s'il n'y a pas d'intervention politique au niveau législatif par rapport au foncier, clairement, le modèle va évoluer tout seul. Il est en train d'évoluer et il va évoluer encore plus rapidement dans les années qui viennent.
Alors,
c'est-à-dire que si on ne revoit pas les choses rapidement,
ça va aller mal. Les tontons farmeurs, comme chaque semaine, on vous demande de bosser. Vous avez deux propositions à faire qui mériteraient d'être intégrées peut-être dans une future loi. C'est l'apport de l'association CoFarming et comment on ne fait pas les choses à moitié. Dans l'émission Tontons Farmers, on vous a mis en face un député, pas des moindres. Il s'agit de Richard Ramos, député de la 6e circonscription du Loiret. Bah, vous avez du pot parce qu'il est plutôt sympa, on le reçoit souvent dans nos émissions. Richard, est-ce que vous entendez ? Richard ? Ah, dommage, Richard nous entend plus, il a coupé. Ah, Richard, vous avez coupé le micro, j'ai eu peur. Richard, donc, du Loiret, on va vous faire deux propositions, enfin, c'est pas moi qui vais vous les faire, c'est Michael et Anaël, deux propositions, peut-être que vous pourriez les porter. Alors, Anaël, à toi l'honneur.
Bonjour Monsieur le député et merci de votre écoute. Vous avez probablement perçu en France qu'on a fait le choix collectif de la forêt et du béton par rapport à l'alimentation. En 40 ans, on a perdu des millions d'hectares agricoles. La figure d'un département tous les 10 ans est bien connue, qu'on ne va pas revenir dessus. Mais sur la même séquence, on est passé en 40 ans de 14 à 17 millions d'hectares de forêt. On fait le choix de bétonner des terres ou de laisser pousser des arbres, parfois inexploités dessus, sans savoir collectivement faire marche arrière et garantir notre sécurité alimentaire future. Je pense qu'il existe une solution, monsieur le député. Ma proposition, c'est de lever l'armada de contraintes qui pèsent sur le défrichage pour les agriculteurs qui cultiveraient ces anciennes forêts en agroforesterie. Vous en avez peut-être entendu parler, hein, c'est cette pratique qui consiste à conserver un mélange de plantations, de rangées d'arbres espacées les unes des autres, suffisamment pour permettre aux machines de travailler comme il faut et de laisser pousser les terres, les cultures, surtout les premières années, permettant de cultiver des céréales ou des légumes entre ces rangées. Je vous illustre avec un exemple. Avec mes parents, on a planté 60 hectares de terres agricoles dans le sud-ouest parce que mon père, il avait peur du fermage. Maintenant, on a fait deux coupes de peupliers depuis et on a été obligé de replanter ces terres fertiles, hein, des très bonnes terres à peupliers, mais aussi des très bonnes terres qui faisaient plus de 130 quintaux de maïs parce que la parcelle, elle était considérée par l'administration comme un bois et devait le rester pour protéger les espaces forestiers. Donc, on a un effet destructeur des terres agricoles. Et si on veut baisser la pression sur le foncier agricole, je pense que c'est par le défrichage raisonné et cette agroforesterie qu'on pourra regagner 1 million d'hectares, stocker du CO2 et avoir un haut niveau de performance environnementale, des biomatériaux et que tout le monde soit content.
On a beaucoup de forêts, on allège les contraintes et on aura plus d'agroforesterie. Richard Ramos, vous la porteriez cette idée ?
Oui, je la porterai. D'abord, moi, je suis dans une circonscription où il y a beaucoup de forêts. J'ai la plus grande forêt domaniale de France. C'est pour moi vraiment… j'ai vu des gens qui faisaient de l'agroforesterie. Je pense que c'est vraiment une piste à creuser. Pas de problème pour essayer de creuser et de rédiger une proposition de loi dans ce sens-là parce que je pense que c'est très, très judicieux. Et puis, vous dire aussi sur le foncier agricole, puisqu'on était sur le foncier agricole, je pense que je vais porter dans les mois qui viennent, les années qui viennent, deux idées fortes. C'est-à-dire, la première, c'est vraiment, je pense que nos communautés de communes, qui sont un échelon, qui finalement ont une petite compétence économique, doivent pouvoir acquérir du foncier agricole à des gens qui ne peuvent pas le porter, et peut-être pour leur redonner demain. Et donc, moi, je pense que la terre n'est pas un bien comme les autres. Et donc, on doit accompagner, on doit déconnecter évidemment la production avec la propriété et faire en sorte que le jour où les gens peuvent devenir propriétaires, on leur permette également. Donc, je pense que là, on a une série de députés, je pense notamment à mon ami Dominique Potier, sur lequel on pourra travailler. Et puis, juste un mot également pour dire aux écolos, qui de temps en temps nous font la leçon, à la fois, ils veulent, comment vous dire, ils veulent beaucoup d'espaces verts en ville, et donc ça veut dire qu'on n'aura pas de concentration des émissions en ville. Donc, vu quand on regarde la démographie, ça veut dire qu'on va encore avoir son petit pavillon et on va encore piquer les terres agricoles dans l'ensemble des communes de France. Donc, il faudra aussi essayer de travailler en cohérence sur cette affaire-là. Soit on a une concentration d'habitat de bourg ou même urbain, et donc on n'aura pas un étalement de l'urbanisme dans nos PLU. Et là, à mon avis, c'est la bonne solution. Mais il faut l'assumer, ce n'est pas toujours simple.
Et il faut assumer de taper aussi un peu le côté aide fiscale à la forêt pour protéger le foncier agricole qui parfois est vraiment menacé par la forêt finalement.
On est complètement d'accord, on est en phase.
Bon, d'autant plus
on
que
est complètement à l'inverse sur le foncier non bâti. Moi, j'observe sur mon secteur des taxes foncières mais qui deviennent complètement vertigineuses. Et sur des terres agricoles d'élevage peu productives où on peine à avoir un fermage annuel de 100 euros à l'hectare, on arrive à des communes qui ont une taxe foncière à l'hectare qui arrive à 60-70 euros. Oui. Donc effectivement, le rebasculement, il y a des choses qui sont complètement incohérentes. Ouais.
D'autant plus que, Richard Ramos, c'est fou quand même toutes ces zones industrielles, ces zones commerciales qu'on continue à créer. On sait qu'on va dans le mauvais sens. On sait, par exemple, vous êtes dans le Loiret, on fait partir des gens de Paris pour les amener dans le Loiret. Des fois, ils sont loin des moyens de communication. Ils se séparent, ils n'arrivent plus à payer les maisons. Certaines maisons qu'on leur donne aujourd'hui sont même pas finies. Vous savez qu'il y a la possibilité d'acheter des maisons qui sont pas finies. Enfin, on va vraiment à contresens là-dessus.
On marche sur la tête. On marche sur la tête. Mais je pense qu'au Parlement, on est un groupe de travail qui est assez transpartisan. Et on a envie de porter une grande loi foncière. Et donc, je pense que le ministre de l'Agriculture actuel n'avait pas été favorable là, il y a quelque temps. Vous avez vu qu'il a dit qu'il n'y aura pas de loi foncière avant la fin de ce quinquennat. On est plusieurs à penser qu'il faut qu'on porte quelque chose sur le sujet parce qu'il n'y a pas d'agriculteur s'il n'y a pas de foncier. Et donc,
elle est très attendue, cette loi foncière. Elle est très attendue de tout le monde.
On aura l'occasion d'en parler.
Bien sûr. Et donc, je pense qu'il y a une volonté là, transpartisane. Vous voyez, vous connaissez Dominique Potier, il y a Julien Dive, on a également Sébastien Jumel pour les communistes, il y a Stéphane Travers qui est dans l'équipe, il y a moi qui suis dans l'équipe. Je pense qu'on va essayer de pousser pour une loi foncière, même si ce n'est pas une grande loi foncière, mais d'essayer, j'ai envie de dire, sur cette plaie béante qui est le foncier, de mettre un garrot qui nous permette, je dirais, de trouver 3-4 textes qui nous permettent d'aller vite et d'aller dans le bon sens.
Alors, bravo Anaël, puisque l'idée est retenue par Richard Ramos. Michael, on va voir maintenant si vous avez autant de chance.
Bonjour, monsieur Ramos.
Bonjour.
Donc, ma proposition est vis-à-vis de l'accompagnement et de la mutation de l'agriculture. Alors, une mutation pour plus de compétitivité, pour une agriculture encore plus respectueuse de l'environnement. Moi, ma proposition, c'est d'aider et d'accompagner les agriculteurs à l'échange de parcelles. L'échange de parcelles sous la forme d'usage. Et il y a un moment où les agriculteurs sont concentrés sur leur parcellaire, c'est au moment de la déclaration PAC, donc sur un outil internet qui s'appelle Télépac. Et à ce moment-là, moi, je pense qu'il serait judicieux que l'administration nous autorise à pouvoir rentrer dans le dispositif. Et moi, je trouve que les chambres d'agriculture seraient assez légitimes parce qu'elles sont là dans l'animation territoriale pour pouvoir pousser aux agriculteurs des préconisations d'échange. On connaît leur parcellaire parce que la déclaration est faite tous les ans. On leur pousse la possibilité de parcelles plus proches de chez eux. Une parcelle plus proche, c'est une parcelle où on sera plus en observation, donc vis-à-vis des attentes sociétales, où on va demander moins d'intervention phytosanitaire. On va pouvoir se permettre d'avoir une agriculture un peu plus productive parce que plus performante. Voilà. Moi, je pense qu'il faudrait que l'administration accepte que les chambres d'agriculture puissent rentrer un peu dans le dispositif, faire de l'animation territoriale pour que nos agriculteurs se retrouvent avec des exploitations plus compétitives. Ce n'est pas du remembrement, c'est du volontariat et c'est vraiment une belle démarche pour redonner une vraie mutation à l'agriculture.
Mais Michael, il faut expliquer quel intérêt concrètement d'échanger. Pardon, juste pour expliquer, Michael, quel intérêt de changer comme ça de parcelle ?
rapprocher ses parcelles, c'est du temps de gagner sur la route, entre autres, c'est pouvoir observer plus facilement ses parcelles. Moi, je suis agriculteur, j'ai des parcelles à plus de 70 km. À 70 km, honnêtement, c'est compliqué d'aller compter les pucerons.
Richard Ramos.
On intervient souvent sur des interventions un peu systématiques. Et aujourd'hui, on sait qu'on sera sur, on devra être de plus en plus sur une agriculture plus durable, plus raisonnée, où l'observation sera stratégique.
Richard.
Simplement pour dire, j'y avais pas pensé. Voilà, donc je veux bien, je ne vous dis pas que je l'apporterai parce que c'est nouveau pour moi, mais en tout cas, ça me plaît. L'idée, elle me séduit. Donc, je suis preneur de travailler pour voir si je peux l'apporter. Mais évidemment.
Attention cependant au régime de propriété quand même. Il faut être très vigilant avec ça. Propriétaire, il a un locataire. Et les échanges culturaux sont réglementés par le code rural. Alors, on l'observe, hein, mais très souvent, moi, dans ma région, il y a des échanges culturels qui sont faits depuis de très longues dates entre fermiers voisins. Et quand on arrive à la sortie d'un fermier, le propriétaire se rend compte qu'en fait, son fermier n'a pas exploité les parcelles depuis plus de 20 ans. Donc, il faut OK sur l'échange de parcelles, mais il faut faire les choses de façon claire, nette et précise pour que toutes les parties prenantes soient bien au courant de ce qui se passe.
Tout à fait. Mais... Et moi, dans ma démarche, c'est bien aider et accompagner les agriculteurs. Et c'est pour ça que quand j'ai cité les chambres d'agriculture, ils sont sur les territoires, ils peuvent accompagner. On a des centres de gestion, on a des juristes. Donc, le dispositif existe. Les experts fonciers, excusez-moi. Le dispositif échangeparcelles.fr fonctionne très bien. Et nous, on pousse tous les utilisateurs de notre plateforme à se rapprocher des experts fonciers, des juristes, toutes les personnes qui peuvent les accompagner.
C'est tout l'avantage du numérique. Parce que le législateur que je suis vous dit qu'il faut encadrer ça, bien évidemment. Mais on voit bien, on connaît tous des agriculteurs qui vont aller essayer d'emblaver des parcelles à 50 km de leur ferme. Et donc, ça a des fois pas de sens. Donc, à mon avis, c'est quand même à étudier, même si c'est à encadrer.
Bon, mais alors, bravo, ça fait deux projets qui ont...
Mais vous avez mis des bons, là.
Hein. Ouais, on a mis les meilleurs, là. Après, on va voir. Mais bon, pour cette émission, on a mis les meilleurs. Richard, Richard Ramos, est-ce que vous avez entendu parler de la loi foncière? Bien entendu, vous en avez parlé. Cette fameuse loi qui recule comme l'horizon au fur et à mesure que l'on s'en rapproche. On va écouter ce qu'en dit Tanguy Martin de l'association Terre de Liens et qui aimerait bien que le gouvernement et le Parlement et toutes les institutions accouchent de cette fameuse loi. On l'écoute.
En tout cas, c'est ce que le ministre de l'Agriculture a annoncé la semaine dernière, avec un manque de vision politique assez certain, puisque la semaine d'avant, le Conseil économique, social et environnemental l'a demandé. Et ce week-end, il se trouve aussi que la Convention citoyenne pour le climat demandait aussi une telle loi foncière. Pour nous, cette loi, elle permet de répondre à la fois à des enjeux sur la biodiversité et le climat, qui sont de plus en plus présents dans l'opinion publique française. Elle permet aussi d'embrayer sur les questions de souveraineté alimentaire, dont tout le monde a ça à la bouche en ce moment, la question de la relocalisation de l'alimentation. Et en plus, elle pourrait répondre à des questions d'emploi. On perd 500 paysans par mois aujourd'hui qui ne sont pas remplacés, qui partent à la retraite ou cessent leur activité. Or, on nous annonce qu'on va avoir des problèmes d'emploi. Donc là, on a un véhicule qui est assez parfait, qui est consensuel. On a la FNSEA qui demande cette mesure. On a France Nature Environnement, avec qui la FNSEA a peu de choses à partager d'habitude, qui demande la même chose. Tout un tas d'acteurs, dont Terre de Liens d'ailleurs, demandent cette loi foncière. Et donc là, on pense qu'il y a un manque de vision politique de la part du ministre de l'Agriculture et du gouvernement sur une opportunité qui leur permettrait de répondre à tout un tas de sujets de manière assez consensuelle. Alors, il y a peut-être des intérêts financiers, du bâtiment derrière qui jouerait contre ça. Il y a certainement des arbitrages à faire parce qu'on ne sera pas tous d'accord sur tout. Mais en tout cas, là, il y a une fenêtre d'opportunité avant le coronavirus et encore plus après le coronavirus pour aller vers une telle loi. Et donc, nous, on va tout faire, tout mettre en œuvre pour convaincre le ministre de l'Agriculture de revenir sur cette décision et de mettre le plus vite possible au calendrier parlementaire une loi foncière pour préserver et partager la terre.
Il a raison, Tanguy Martin. Pourquoi elle n'arrive pas, cette loi, Richard Ramos?
Bon, d'abord, je pense que le ministre de l'Agriculture, comme c'est les foins en ce moment, avait fumé le foin.
On va s'étendre. Hein.
Donc voilà, donc je pense que c'est une vraie erreur. Donc on va essayer, nous les parlementaires, le Parlement est libre, de remettre cette histoire de foncier agricole. C'est une nécessité. Et donc vous allez pouvoir compter sur des députés pour essayer de faire avancer ça. Je pense que c'est assez compliqué. Je vous avoue que je ne comprends pas bien parce que des fois, il y a des lobbyistes, des fois, il y a des choses. Mais là, c'est vraiment dans l'intérêt de tous. Donc, il y a vraiment des gens qui ont envie de faire des choses. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on ne va pas plus vite sur le sujet. Donc, je vous avoue que je ne comprends pas et je pense que Didier Guillaume a fait une erreur. Et s'il est encore là dans 15 jours, il la rectifiera.
Bon, on l'espère, on compte sur vous, en tout cas les parlementaires, pour faire avancer ça. Alors, il semblerait qu'on s'orienterait, mais il y a du conditionnel là-dessus, vers le fait de scinder la loi en deux. D'un côté, peut-être d'ici la fin de l'année, la capacité à trouver une solution pour éviter le transfert de parts sociales, donc un mécanisme qui permettrait à la fois d'éviter ce transfert et aussi de porter un fonds d'investissement que posséderaient les SAFER pour aider les jeunes justement à pouvoir s'installer. Ça pourrait venir d'ici la fin de l'année. En revanche, la loi foncière stricto sensu, elle serait plutôt reportée au calendrier grec 2021, 2022, voire plus, puisqu'on sent qu'il y a un véritable problème.
Mais j'ai peur qu'une fois de plus, on s'occupe de retoiletter les droits des SAFER et que tout le reste qui est quand même important dans la loi foncière soit repoussé d'année en année. Et c'est dommage.
Bon, on va faire confiance aux députés. On vous a mal entendu, s'il vous plaît. Thierry Bussy.
Oui, je pense que oui. C'est pas une question de retoiletter le droit des SAFER. Le droit des SAFER, c'est un outil. Hein. C'est un outil au service des missions, des grandes missions qui nous sont confiées par le législateur et par les politiques agricoles qu'on doit mettre en place. Donc voilà, nous, si on a alerté depuis maintenant des mois, voire des années sur le transfert de parts de société, c'est effectivement pour que tout le monde puisse, ça permette à tout le monde effectivement d'avoir du foncier. Il arrive un moment, voilà, la SAFER, je pense que sans ces outils qu'on a en France aujourd'hui, vous l'avez dit au début de l'émission, je pense que le foncier serait beaucoup, beaucoup plus cher que ce qu'il est aujourd'hui. Alors après, il y a des trous dans la raquette, effectivement, donc il faut y remédier rapidement. Donc c'est pour ça, effectivement, que nous, Didier Guillaume, nous a affirmé qu'il allait intervenir rapidement dans un véhicule législatif pour intervenir sur les parts de société, mais que malgré tout, la loi foncière n'était pas oubliée. Simplement, juste pour terminer sur ce sujet, c'est le président de la République, au Salon de l'Agriculture, il y a 2 ans, qui a annoncé, effectivement, qu'on aurait une loi foncière. Hein. Je le dis, donc je compte sur lui, je compte sur le député, notamment M. Ramos et M. Sampastou, qui était effectivement à la tête d'une mission parlementaire, qui a tourné dans toute la France. Donc je pense que les sujets sont connus. Maintenant, il y a effectivement consensus au niveau politique. Donc maintenant, messieurs les députés, allez-y.
Alors, on a beaucoup d'interactions sur le sujet. Victor Sauré, notamment, qui dit « La limitation du nombre d'hectares par société ou par exploitant ne peut-elle pas être une des solutions pour baisser la pression foncière et permettre à des jeunes de s'installer ?» Qui répond en quelques phrases ?
Ah ben, moi, je ne crois pas du tout au fait que ce soit juste en travaillant que sur des petites structures qu'on va réduire le coût du foncier. Il y a des pays qui sont tout petits, où les exploitations ne sont pas forcément immenses, qui ont intensifié leur production à l'hectare, et le coût à l'hectare a monté à des niveaux extrêmement élevés. La limitation de la pression du foncier, il y a une offre, elle se réduit, il y a une demande, elle augmente, la tension va forcément être de plus en plus élevée, et les digues risquent de rompre. Et on le voit tout à l'heure, le témoignage, c'était le foncier, quand il est racheté dans ses véhicules sociétaires, il est beaucoup plus élevé. Mais c'est logique, c'est une loi de l'offre et de la demande, il y a de moins en moins de foncier agricole, il y a de plus en plus de consommation alimentaire, ça va craquer si on ne regagne pas des terres. Et ce n'est pas juste en disant, en saupoudrant les terres, en les divisant petit morceau par petit morceau, qu'on va éviter qu'elles grimpent à moyen terme.
Agri51, agriculteur de la Marne, donc, nous dit « Pourquoi les Français ne pourraient pas massivement investir dans les terres agricoles autant qu'ils investissent aujourd'hui dans le manger français ? Est-ce que ça ne pourrait pas être un bon soutien aux agris ?» C'est un peu l'idée du fonds lancé par la FNSAFER à la fin de l'année, non ? Thierry Bussy.
Mais ça, oui. Oui, oui, tout à fait. Donc l'objectif, effectivement, de ce fonds qui est en train d'être mis en place, hein, donc on avait encore une réunion cet après-midi sur le sujet, c'est effectivement de pouvoir faire accéder aux fonciers des jeunes qui n'en auraient pas la possibilité. Donc nous, ça fait quand même maintenant 4 ans, plus de 4 ans qu'on travaille sur le sujet. Donc l'objectif, c'est un fonds institutionnel, hein, avec effectivement l'amorçage du fonds par des institutionnels. Et après, une fois que ce fonds est en place, de le faire abonder via l'épargne des Français située dans l'assurance vie. Et on est en train de mettre en place un véhicule qui permettrait de le faire, sachant qu'on avait fait un sondage à une compagnie qui nous suit, qui nous accompagne, avait fait un sondage auprès de ses clients, donc ses déposants, Pour vous dire qu'il y a plus de 90% aujourd'hui des Français qui sont prêts à orienter une partie de leur, épargne vers du foncier qui irait au service de l'agriculture, de notre agriculture et aussi de nos jeunes agriculteurs. Donc voilà pourquoi aussi on avance fortement sur ce sujet.
Bon, t'as sur, ce sujet-là, Jean-Paul, moi je connais une start-up qui a plus de 43 ans et qui fonctionne très bien sur ce sujet, c'est les GFAM. Donc GFA Mutuel, dans le département de la Marne par exemple, il y en a, mais il y en a dans d'autres départements, c'est détenu par la profession, c'est géré par la profession, et aujourd'hui les investisseurs sont souvent des agriculteurs qui investissent quelque part, des agriculteurs retraités, et mettent à disposition à des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui sont ponctuellement un peu en difficulté. On vient de vivre une période un peu délicate sur des quelques années où les rendements étaient très faibles, des marchés très, très tendus. Les agriculteurs se sont séparés de quelques hectares pour pouvoir passer le cap. Donc, ils se sont séparés, ont vendu au GFA. Malgré tout, ont eu le fermage, la capacité d'exploiter, de continuer d'exploiter. Et c'est un système qui fonctionne très, très bien depuis 42 ou 43 ans dans bon nombre de départements au niveau national.
Puis, investir dans la terre, ça rapporte, il faut le dire. Investir dans la terre, ça rapporte. Ah oui, allez-y, pardon.
Ça marche très bien dans le département de la Marne, mais toutes les attributions qui sont faites au GFA de la Marne et des Ardennes sont faites via la SACER, effectivement.
Michael,
ça accompagne plutôt les exploitants qui sont en difficulté pendant leur période d'exploitation.
Michael,
plus que de l'installation, vous avez des objets bien précis et ça marche effectivement très très bien.
Bon, Michael, ça rapporte d'investir dans la terre, non ?
C'est sécurisant, ça a été dit. Aujourd'hui, le GFAM départemental annonce 5%. Ça veut dire 2% de dividendes plus 3% d'estimation d'augmentation de valeur annuelle. Donc, pour quelqu'un qui a un petit patrimoine financier à placer, c'est rassurant. Et au même titre, voire peut-être encore mieux que l'immobilier, la stabilité, elle est véritablement réelle depuis des décennies.
Puis, c'est exonéré pour l'ISF, non ? Enfin, qui est devenu l'IFI.
Oui, il y a ce dispositif.
Faut pas l'oublier.
Faut-il accepter de signer un bail à long terme ? Et c'est l'intérêt du dispositif, c'est inciter aux propriétaires de signer un bail à long terme pour sécuriser le fermier en place, pour qu'il puisse finir d'amortir et de travailler sur son exploitation agricole.
Gérard Cornet nous dit il faut réviser la SMI, surface minimale d'installation, qui est totalement obsolète. D'accord, pas d'accord ?
C'est en cours, hein.
C'est en cours. Et le pareil.
Régional, l'exploitation agricole au niveau régional avec les nouvelles régions est en cours de révision.
Pareil, la réforme du droit du fermage, il faut le revoir un peu, non ? Il est un peu sclérosant.
Il faut le dépoussiérer, tout à fait. Ouais. Il faut revoir surtout, et je parle au député qui est présent, il faut revoir le statut de l'agriculteur. Parce qu'on parle effectivement de l'achat de foncier. Il y a un autre phénomène qu'on voit apparaître en France et qui est aussi ravageur que le transfert en part de société, c'est la prestation de services pour des agriculteurs ou des retraités qui gardent leur exploitation et qui la font faire par des autres.
Alors ça, il faut qu'on explique. Une entreprise agricole va voir par exemple une veuve ou un retraité et lui dit « Vous restez sur place en conservant donc votre maison, mais nous on gère de A jusqu'à Z, et surtout vous ne faites rien, on gère de A jusqu'à Z donc les cultures, allant même jusqu'à l'intégration de l'aide PAC, et on vous livre un revenu qu'on négocie en début de période qui peut aller entre 3 et 5, enfin voire 6% du montant de l'hectare. » C'est bien ça, Thierry Bussy ?
Du prix de l'hectare. Là, vous allez jusqu'au bout du phénomène, mais oui, en partie, c'est ça. Mais ce n'est pas que la veuve ou le retraité qui vont voir, puisque le système aujourd'hui qui prend de l'ampleur fait que certains enfants des agriculteurs qui prennent leur retraite passent la capacité, s'installent et ils sont pharmaciens ou ont une autre profession à 600 km de leur exploitation.
Alors, Michael, on va.
J'entendais Anaël ou Michael tout à l'heure dire la peur du fermage. Oui, c'est une partie liée à cette mais c'est exactement ça et c'est un peu dommage parce que le fermage c'est quand même aujourd'hui 60% de la SAU sur le territoire français et pour un propriétaire je vois dans nos régions avoir un fermier qui entretient bien et qui paye régulièrement son fermage à un prix raisonnable, ça reste un placement qui est intéressant pour lui, hein.
Nous, on a fait le choix d'éviter le fermage, hein, vraiment. On a planté une partie et l'autre partie, on l'a fait exploiter par des ETA en prestation complète, hein, où on ne touchait plus un tracteur. Il y avait le statut d'agriculteur. Mais on ne touchait plus.
Alors, Michael, l'émission avance.
C'est dans ce sens-là.
Je vais devoir vous laisser,
messieurs. C'est dans ce sens-là que je disais tout à l'heure.
On va remercier Richard Amos, effectivement, il est 19h35. Merci beaucoup Richard Amos, et puis l'association Co-Farming reprend contact avec vous pour ces deux propositions.
Le voilà. Parlement, c'est le vôtre, donc bon. Bienvenue.
Merci beaucoup. Alors, Michael, on va parler des dossiers qui fâchent. Comment se fait-il qu'un agriculteur, un céréalier comme vous, qui est en vacances actuellement, qui dit qu'il a du mal à joindre les deux bouts avec un prix des terres qui va entre 10 000, 15 000, 20 000 euros l'hectare, alors qu'un Belge qui a des terres qui coûtent 50 à 60 000 euros l'hectare, qui nous écoute peut-être actuellement là, comment il fait, lui, pour arriver à vivre, voire même pour payer 1 000 euros par hectare pour pouvoir planter la pomme de terre en France? Il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Michael. Eh ben, quand on est agriculteur français, ouais, c'est évidemment difficile à comprendre. Il y a certainement des mécanismes fiscaux qui sont plutôt favorables à l'agriculture. Il faudrait peut-être gratter un petit peu le dispositif TVA chez eux. Est-ce que le système de TVA est exactement le même que chez nous? Je n'en suis pas certain. Après, on a des Belges aussi qui arrivent chez nous, qui commencent à exploiter et qui mettent sur la table avec des billets de 1 000 euros pour venir faire des pommes de terre, entre autres. Eh ben, moi, je pense qu'ils sont certainement aidés. Alors, ce n'est pas officiel, mais je pense que les industriels de l'industrie de la pomme de terre belge ont besoin de volume et ils sont prêts à mettre un peu plus cher pour avoir du volume sur le marché pour faire baisser globalement le prix de la pomme de terre, mais en achetant ces volumes un peu plus chers, supplémentaires, pour maintenir un prix bas, voire peut-être un gouvernement belge qui a peut-être intérêt à voir ses producteurs aller sur le territoire national. Enfin, il y a peut-être une petite enquête à mener pour voir comment c'est possible avec ce dispositif que ces agriculteurs belges arrivent à vivre, et voire même à vivre un peu mieux que nous.
Thierry Bussy, vous avez l'explication?
Non, je n'ai pas l'explication. Alors effectivement, hein, au niveau de la Belgique, ils sont beaucoup plus aidés et ils ont beaucoup moins de contraintes qu'au niveau français. Vous dire que quand un agriculteur sous-loue effectivement pour faire de la pomme de terre, s'il est attaqué par son propriétaire, le statut du fermage tomberait. Donc il faut aussi le savoir, parce que l'agriculteur qui sous-loue des terres, qui fait tout faire de A à Z, quand même, effectivement, c'est un contournement du statut du fermage. Alors après, j'ai pas l'explication, sauf que la pomme de terre, certaines années, rapporte énormément, hein, puisque c'est toujours en dents de scie, mais quand c'est une année où ça rapporte beaucoup.
Alors Vincent Buard, cultivateur passionné, dit ici, je ne sais pas où il est d'ailleurs, ici c'est tendu en foncier avec la ligne LGV, on a beaucoup absorbé des surfaces et les prix s'envolent. C'est vrai qu'il y a les interactions aussi avec tout ce qui est ouvrage d'art. Alors à présent on va mettre le cap sur le sud, on attaque le Money Time là à la fin, on va mettre le cap sur le sud-ouest pour aller dans une région que j'aime particulièrement, il s'agit de la région Occitanie. Paul Bouzin, est-ce que vous nous entendez?
Oui, bonjour Jean-Paul.
Oh là là, cet accent, qu'est-ce qu'il fait bien. Alors, Paul Bouzin, vous êtes cofondateur de Talk AG, c'est un réseau social dédié aux agriculteurs que je vous recommande. Et puis, vous êtes en bonne compagnie, Paul, racontez-nous.
Oui, bah écoutez, je suis en compagnie de Florian, qui est agriculteur dans le sud-ouest, pas loin de Toulouse.
Bon, alors... Eh ben on va lui demander, Florian, ces moissons, ça a démarré, est-ce qu'elles sont, ça se passe bien, est-ce que ça s'annonce bien?
Eh bien, bonjour Jean-Paul. Tout d'abord, les moissons, oui, comme vous dites, on démarrait ici depuis une grosse semaine, 15 jours maintenant, avec notamment les colza semences, colza et orge pour le moment. Niveau céréales à la paille, premier bilan très décevant comparé à l'année dernière. On a des rendements aujourd'hui qui sont l'ordre de 40 quintaux contre 80 l'année passée quand c'est du simple double. Donc ça risque d'être compliqué.
C'est pas très bon. Et côté terre, on trouve facilement des terres aujourd'hui avec Toulouse à côté?
Eh bien non, justement, vous parlez de Toulouse à côté. Nous, on a un gros problème aujourd'hui qui est l'urbanisation qui s'étend de plus en plus. Notamment aujourd'hui, on se fait appeler le Grand Toulouse. Donc ça gratte de plus en plus. Et voilà, donc étant jeune agriculteur, c'est très compliqué.
Et vous m'avez dit qu'il y a des stratégies où on vend plus cher peut-être qu'on aurait vendu normalement. Pourquoi?
Comment ça?
Est-ce que c'est vrai qu'il y a des terres qui sont vendues plus cher qu'elles ne valent réellement?
Ah ben c'est clair qu'aujourd'hui, le cours de la terre, ici du moins, pour nous est complètement aberrant compte tenu de la marge brute que l'on fait à l'hectare. Aujourd'hui, on fait du 80 quintaux en blé sur nos terres, et c'est des terres qui se vendent de l'ordre de 15 000 euros l'hectare. Aujourd'hui, pour un jeune agriculteur, c'est très difficile de s'installer dans ces conditions-là et de tenir une comptabilité décente pendant les 5 ans à venir. Voilà. Donc, il y a encore un peu de polyculture élevage. Nous, ce qui nous sauve aujourd'hui, c'est l'élevage avec des rentrées d'argent qui sont étalées sur l'année et le cours de la viande qui depuis 30 ans, entre guillemets, est le même, mais qui aujourd'hui nous rapporte quelque chose pour faire vivre une famille, quoi.
Alors, vous savez que dans le Nord, il y a une technique du pas de porte, c'est-à-dire qu'on met un petit peu plus d'argent ou bien on surévalue le matériel lors d'une cession d'une ferme. Ça se pratique dans le Sud ?
Non, pas du tout.
Non, c'est dans le Nord, ça.
Ouais, ou alors c'est peut-être la raison pour laquelle moi j'arrive pas à avoir de terre, c'est que je ne l'ai pas fait.
Voilà, il faut juste rajouter un peu. Et dans le Charolais, ça se pratique ?
Non, pas encore. Mais
c'est limite.
On commence à entendre parler de ces choses-là. Voilà.
Le matériel d'occasion, ça vaut cher.
Et dans la Marne ?
Il est rien que les droits à prime, tout simplement.
Exactement. Et dans la Marne ? Allô, Mickaël ?
Dans la Marne. Allô, ouais, ça coupe là, c'est marrant, c'est bizarre, ça coupe. Allô, allô.
Ok, j'ai compris, Mickaël, pas de souci. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Paul et Florian. Alors, juste pour finir là, les tontons, c'est quoi le secret ? Ça rapporte aujourd'hui les terres, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais si on est jeune, c'est quand même se mettre la corde au cou que d'aller investir prioritairement sur les terres. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, moi, clairement, là, un bon agriculteur n'est pas forcément propriétaire. Alors quand on dit propriétaire de son foncier, mais on pourra parler plus tard du bâtiment, du matériel, etc. Alors pour le foncier, je reviens dessus. Moi, un agriculteur…
Forcément, quand on démarre, en tout cas dans nos régions, on commence en louant auprès des propriétaires. Et petit à petit, les opportunités de la vie font que on peut acheter telle ou telle parcelle, voire la totalité d'exploitation. Et ça fait un bien à transmettre à ses enfants.
Bon, Annaëlle, en un mot. Pour finir.
Oui, moi je suis convaincu que c'est l'agriculteur doit progresser aussi sur la capacité de choix d'investissement, de choisir avec des critères objectifs qui sont la rentabilité, la capacité de financement et aussi est-ce que l'investissement est utile, c'est-à-dire est-ce qu'il va m'aider à gagner du temps, est-ce qu'il va m'aider à rentrer, à être plus au confort dans mon travail. Mais vraiment, il faut avoir des critères décisionnels objectif, chiffré, et le foncier, effectivement, quand on regarde en termes de chiffres, parfois, ça peut être beaucoup trop coûteux par rapport à la location ou au fermage.
Bon, alors voilà, nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission. Je tenais à vous remercier, bien sûr, tous les invités d'être ici pour répondre à toutes ces questions. L'association CoFarming, bien sûr, et puis bravo pour ces deux projets qu'il va falloir amener à l'Assemblée nationale à présent et surtout ne pas s'arrêter. Je remercie aussi tous les auditeurs, de notre chaîne Power Boost sur YouTube qui nous ont suivis en direct et qui peuvent nous retrouver ainsi chaque mardi. Et puis, je vais remercier à nouveau nos partenaires, la Banque Populaire et le groupe Agrica, parce que sans eux, effectivement, cette émission elle ne pourrait pas exister. Donc, on les remercie encore à nouveau. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Vous savez, les Tontons Farmeurs, c'est chaque mardi soir à 19h. Et puis, le thème de la prochaine émission, vous allez voir tout un projet. Les agriculteurs sont-ils nuls en marketing ? Voilà, on va avoir l'occasion de préparer cette émission. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt à tous et on se retrouve mardi prochain à 19h.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.